Merci beaucoup pour l'invitation, professeur Strykitsa, et merci beaucoup pour cette très aimable introduction. Je veux commencer par une très vite panorama de l'école de Prague pour donner une base à mes réflexions qui seront un peu théoriques. Ce sont les 10 peut-être les plus importantes œuvres d'art des écoles rodolphiniennes. C'est pour la dure Renaissance qui était une partie de l'école de Prague. C'est un chef-d'œuvre de Sprenger. C'est aussi un chef-d'œuvre pour l'art érotique de l'école de Prague, aussi Sprenger, et son rival et ami Hans von Aachen. C'est pour un courant un peu plus néerlandais. C'est pour la fin de l'école de Prague avec une implosion de baroque. C'est l'artiste calviniste suisse Heinz. Et c'est pour le paysage du type néerlandais qui a été fait en Prague. Oui. On peut indiquer avec une précision peut-être un peu exagérée la date exacte du naissance du concept de l'école de Prague. C'était la fameuse conférence rudolfinienne à Prague en octobre 1969. L'art en Bohème, aux périodes de Rodolphe II, n'était jusqu'à ce moment-là au centre des investigations scientifiques des historiens d'art tchèques et slovaques. Ils ont préféré plutôt des styles liés au concept d'un art strictement national, comme le splendide 14e siècle avec son projet gothique, suivi des châteaux bohémiens de la Renaissance, l'exubérant baroque et, last but not least, l'imposant éblouissement de la peinture historique ou patriotique au 19e siècle. L'art au cours de Rodolphe II appartenait au courant du maniérisme international. Elle a fait son apparition surtout à Prague et en conséquence, elle a laissé très peu de traces dans le milieu provincial de Bohême. Rodolphe II, comme empereur chef de politique habsbourgienne, a été très éloigné des aspirations des inhabitants de Bohême. Et l'empereur lui-même a mené une politique indécisive, pleine de procrastination, est en conflit avec toutes les forces majeures de son temps. En résultat, Rodolphe et ses aspirations artistiques ont tombé pour plus de 3 siècles après son mort dans un oubli presque total. Prague, dans l'automne de 1969, était une ville paralysée et choquée par les événements politiques. Ça veut dire par l'invasion soviétique d'août 1968. Et les tournants vers une culture si profondément cosmopolite comme la culture rodolphienne et la tentative de l'assimiler pour les besoins du narratif tchèque en matière d'histoire de l'art a été fondée ainsi sur une tendance nouvelle qui a voulu réintégrer la Tchécoslovaquie et la Bohème, surtout dans un cadre vraiment européen. Cette approche, qui pendant l'affreuse période de normalisation husakienne devait être basée sur les concepts d'une longue marchée, aboutit après presque 5 ans et années de sa conférence en succès total. Après un demi-siècle de recherches intensives, après une série de grandes expositions, le ton triomphaliste semble de dominer. Le prominent historien d'art Thomas da Costa Kaufmann de Princeton University a exprimé cette attitude avec une brio particulière. Painting at the court of Rudolf II made a school, in a certain sense, not only for art in the local scene in Bohemia, but for much of the rest of Northern Europe. Rudolfine painting possessed a coherent aesthetic, which allowed for various possibilities of expression and which could be developed elsewhere. To conclude with this older metaphor, painting at the court of Rudolf II may therefore be considered not only the school of art, but a school for Europe. Jürgen Kaufmann, Da Costa Kaufmann a reçu un support enthousiastique des historiens d'art allemands, Jürgen Müller, qui a développé le très populaire concept d'un consensus pragensis, une formule symbolisant par l'implication l'unité des arts en Prague. Ça sera le consensus pragensis, mais aussi les délibérations de Da Costa Kaufmann qui vont servir comme point de départ critique, sinon oppositionnel, des suivantes analyses. L'école de Prague a été formée au début des années 80 du XVIe siècle en Italie, mais par les artistes néerlandaises liés à l'école de Haarlem. Elle était caractérisée par une mélange des influences florentines et romanes qui ont été toujours balancées par une idéale figurale formulée au cercle de Hendrik Goltzius à Haarlem. Mais le point important est ici le fait du manque d'un idéal esthétique formulé selon des critères académiques. En combinaison avec la réclusivité et le manifeste déclin de toute propagande artistique au cours de Prague, ça a amoindri le poids de Rudolfinien dans le cadre européen. Le slogan un peu particulier d'une Concordia Pragensis, formulé il y a 30 ans par l'historien d'art Jürgen Müller, a beaucoup contribué à la croissance du mythe de l'école de Prague. Par ses formules quasi-rhétoriques, basées sur une spéculative généralisation de quelques observations faites dans son Schilderbuch par le grand chroniste d'art néerlandais Karel van Mander, Jürgen Müller a voulu décrire et caractériser l'idéal d'une coopération entre artistes travaillant pour les mêmes commanditaires. Une coopération dépourvue, grosso modo, des rivalités personnelles. En conséquence, Müller a suggéré que Bartholomew Sprenger, Hans von Aachen et Josef Heinz ont entretenu des relations extrêmement harmonieuses. Et j'ai nommé ici la grande troïka des artistes rudolfiniennes. Le seul patron de cette coopération a été, selon la lecture de Van Mander proposée par Müller, l'empereur lui-même, l'empereur Rodolphe II lui-même. Mais en analysant dans une façon plus précise le texte de Van Mander, on peut observer très rapidement que la formule de Müller est en réalité une simplification un peu banaliste d'une réalité beaucoup plus complexe. Van Mander a surtout voulu contraster les conflits incessants entre les artistes italiens, pleins de violentes agressions personnelles, avec une absence, bien entendu présupposée a priori, de relations inimicales chez les artistes néerlandais. Le diable est caché cependant dans les détails. L'application de cette loi mandarienne à l'égard des artistes de Prague a été faite en réalité plutôt par Müller que par Van Mander, parce que chez les dernières, on ne peut pas trouver de concrètes exemplifications. Van Mander, comme démontre clairement un closer reading de son texte, a préféré délouer en première place Rodolphe, pour avoir créé en Prague un centre de sapientia, un foyer artistique. Mais Van Mander ne s'intéresse pas C'est vraiment le point saillant ici pour l'école de Prague comme entité artistique. Bien entendu, il ne use lui-même ce terme-là. Il ne mentionne pas Archimbold, le grand artiste rodolphinien. Vous avez vu l'image, les premières images ici, les secondes images ici, parce que c'est parce que ça pouvait endommager un peu sa propre vision de la supériorité générale des artistes néerlandais en Prague, contrastée avec le déclin supposé des arts en Italie. Van Mander a été une nationaliste de l'art de son pays. Pour Van Mander, Rodolphe a effectué une sorte de translatio picture au nord d'Europe et a devenu donc en conséquence le plus grand ami d'art en Europe. Le slogan d'une Concordia Pragensis a obscurci aussi le fait que nous ne savons pas beaucoup en ce qui concerne l'atmosphère et les relations réelles entre les artistes en Prague. Mais il y a, à mon avis, une grande exception de cette règle, totalement méconnue et négligée, je pense, méconnue par Müller, aussi par les autres historiens de l'art qui se travaillant sur l'art rodolphinien. Je pense ici à l'hôtel de 1598, destiné pour la cathédrale de Saint-Guy à Prague, qui a été détruit partiellement dans l'iconoclasme de Noël 1619 en Prague, c'est un iconoclasme calviniste. Les volets de cette retable ont été heureusement préservés. Ils sont maintenant au Kunsthistorisches Museum à Vienne. Le panneau central, le plus splendide, et sur le point de vue artistique, a été, hélas, perdu. Ces méconnues œuvres d'art qui, pour maintes raisons, gardent une statut presque unique dans l'histoire de l'art, montrent, souvent dans une façon paradoxe, l'enracinement vraiment européen d'art rodolphinien et sa incessante vacillation entre l'Italie et les Pays-Bas. Un petit remarque en avant. Je ne veux pas discuter ici les compliqués problèmes historiques de cet hôtel qui concerne la commande ni la plupart de ses références iconographiques. Je voudrais renvoyer chacun qui s'intéresse au solide, mais un peu myope, grand œuvre factographie de l'historien allemand Jürgen Zimmer. Pour raccourcir ici un long argument, et long et compliqué argument, l'hôtel a été, la retable a été a été le projet favori de l'empereur Rodolphe en tant que commanditeur et comme personnage qui a décidé personnellement toute l'iconographie, mais comme je pense aussi tous les aspects formels des œuvres. Le plus important est le fait que Rodolphe a pris une décision vraiment unique dans l'art du Renaissance et du Baroque en assignant l'exécution de cette retable à quelques de ses artistes préférés en Prague. Sprenger, Van Aachen, Heinz et last but not least, le peintre néerlandais des architectures, des utopies architecturales, Hans Vredeman de Vries. Cette décision a produit une situation vraiment stupéfiante dans le contexte politico-confessionnel d'époque. L'hôtel destiné sans doute pour une majeure église catholique comme la cathédrale à Prague était exécuté par l'artiste réformé suisse Joseph Heinz de Bâle, le luthéranien Bartholomew Sprenger, le calviniste néerlandais Vredeman de Vries et last but not least, pas un seul artiste vraiment catholique dans cette groupuscule, c'est-à-dire Hans von Aachen. Une situation, répétons ça avec une certaine insistance, absolument unique. Sans doute, une analyse plus précise est nécessaire. On voit presque immédiatement que sur le plan stylistique, un étonnant ajustement stylistique a pris place. On peut voir ici les deux volets, à gauche Pranger, à droite Heinz, et ils ont assimilé leur style dans une très grand grade. Normalement, ils sont dissimilaires, mais ici, un ajustement stylistique a pris place. Et deux artistes un peu dissimulaires, Spranger, plus linéaire dans la tradition florentino-romane, et Heinz, qui a continué un peu la tradition coloriste vénitienne, ont essayé de présenter ici une vision commune. Certes, pas absolument homogène, mais en termes formels, vous avoisinez. Et étonnant est la décision de nos deux artistes d'encadrer la composition de leur volet par des arbres dominants. Et précisément dans la manière des paysages néerlandais après la moitié du XVIe siècle. Pour un triptyque avec des volets étroits, ça a été absolument une procédure unique. Et peut-être dans les termes artistiques défavorables, je voudrais ça remarquer, mais qui, à mon avis, possède une valeur primaire symbolique ou référentielle comme incarnation formelle du néerlandisme dans cette retable-là. Et la même observation peut être appliquée aux scènes architecturales. Aux scènes architecturales qu'on peut voir sur les volets extérieurs du triptyque, qui aussi rompt dans une façon brusque avec la habituelle forme des hôtels. Elle convient très mal au contour de l'hôtel. Et pour prolonger cette analyse, peut-être un peu acerbique, les figures de Marie et de l'archange Gabriel, ici, excipent, et ne sont pas peints par Vredeman, mais ils sont peints par Van Aaren dans une référence très précise aux figures des premières annonciations du jeune Titien. Un choix, à mon avis, très bien calculé. Mais la chose peut-être la plus surprenante s'est produite au centre du retable, qui a jadis hébergé une scène de résurrection. Je ne veux pas entrer en détail dans une discussion scientifique très complexe, mais les références traditionnelles à un présumé, à un dessin préparatoire présumé de Van Aaren qui a dans le musée de Brno est à mon avis totalement erroné. En toute probabilité, c'est la gravure de Sadeler d'après Van Aaren. Cette gravure-là, qui nous montre, en dépit des petites variations, l'état original de la peinture maintenant perdue. Un premier coup d'œil révèle aussi une chose très intéressante. La pose de la figure du Christ, je voudrais omettre ici l'évident problème de l'inversion dans la gravure, c'est un autre problème, est basée grosso modo sur le fameux Mercure de Giambologna, excepté la direction de la main. Oui, c'est la comparaison, c'est Giambologna. Oui, excepté la direction de la mer. On ne peut donc, par conséquent, douter que le catholique Van Aaren a osé de faire ici une référence vraiment vraiment audacieuse si nous pensons aux règles de décorum ecclésiastique tridentine et post-tridentine, aux problèmes renaissancistes du paragone entre la peinture et la sculpture. Un problème néanmoins rarement, très rarement évoqué par l'art sacré de la Renaissance. La pose du Christ de Van Aachen a été aux antipodes du modus hiératique. La tradition iconographique exhibe d'importants changements. Aux places du Christ, piétinant sur le serpent, symbolisant la mort et le péché, le sauveur a assumé une pose quasiment symbolique et le serpent a obtenu un statut peut-être similaire à celle de l'Ouroboros, pas dans le terme iconographique. Mais si on prend ça, on peut dire que dans une certaine vision idéographique, le serpent est presque un Ouroboros, ce n'est pas un serpent de la péché. Et la fortune artistique des panneaux centrales a été, et je voudrais vous montrer, et ça pouvait être reconstruction hypothétique, à mon avis, des retables de Prague. À gauche, Aachen, à gauche, Spagne, au centre, Aachen, à droite, Joseph Heinz, la troïka des plus grands artistes rodolphiniens. La fortune artistique des panneaux centrales a été variée. Il me semble probable que l'éminent sculpteur rodolphinien Adrien de Vries a repris le geste spécifique de la main, du Christ, très spécifique, en produisant deux versions successives de Mercure. Oui, c'est ça. Et deux versions successives de Mercure. Sans doute, le vrai motif de ce petit emprunt est livré par son désir de s'éloigner un peu, avec l'aide de Van Aachen, du prédominant modèle de Giambologna. Une reprise, bien sûr, intéressante, mais dépourvue de conséquences artistiques. Mais retournons pour un moment au panneau central. Sprenger, son collègue, mais bien aussi son rival, et c'est le point saillant ici, a peint les panneaux mythologiques de Jupiter et Antiope. Et c'est la seule peinture de Sprenger où on peut observer, bien sûr seulement dans la figure de la femme d'Antiope, un réflexe de Giambologna, le plus grand sculpteur maniériste Giambologna. On peut donc sentir une rivalité artistique subcutanée, pas une consensus pragensis, comme l'a voulu Müller. Sprenger a limité son giambolognisme à une un peu oblique adaptation du motif. Van Aachen a pris la décision audacieuse de focaliser dans la figure du Christ toute la problématique contemporaine des paragones avec une référence lisible à Giambologna. L'empreinte compositionnelle de la figure de Van Aachen a été aidée par l'arrière-plan presque vide, qui a donné un effet limitrophique à toute illusion spatiale. La position de Jésus au-dessus des serpents montre un artifice vraiment maniériste. Ajoutons ici une petite mais importante référence au goût de l'empereur. Lorsqu'il a reçu enfin un relief de Giambologna en 1104, qu'il avait longtemps convoité, il exclamait « C'est là enfin à moi ». Rodolphe a immédiatement porté le relief de ses mains dans son appartement. où il l'installe. Le point vraiment important ici est le fait que Rodolphe part ici non d'une statue de Gian Bologna, il a déjà possédé plusieurs, mais d'un relief. Un relief lié dans sa façon puis presque ontologique au problème du paragone entre la peinture et la sculpture. Maintenant, le stratagème artistique de Van Aachen dans notre hôtel acquiert une significance, comme je pense, doublée. Le cas de l'hôtel de Prague peut donc servir peut-être moins comme mesure, mais plutôt comme un utile indicateur de la problématique de l'enracinement européen de l'art rodolphinien. On peut discerner ici une complexe combinaison d'une tendance visant d'abord une homogénéisation formale, je pense ici à l'ajustement stylistique de Sprenger et de Heinz, avec une autre tendance de faire des emprunts iconographiques et formales. On peut donc parler ici de trois catégories des emprunts. Une première catégorie constituée par une sorte de citation d'honneur, c'est l'allemand Huldigungsverweis, connu par l'histoire de l'art allemande, tirée de la répertoire d'un grand artiste comme Gian Bologna. Une seconde catégorie sera constituée par des références aux grandes écoles nationales, avec comme à l'école italienne, avec ses subdivisions régionales. Et sur un niveau plus élevé, celui des catégories, ce sont des catégories liées au problème du paragone. Les questions et problèmes liés à ces trois catégories ne peuvent pas être analysées et résolues par les concepts stylistiques, comme l'a suggéré jadis d'Acosta Kaufmann, et je pense qu'il a suggéré ça en erreur, mais surtout par la catégorie subordonnée des modus artistiques. Et l'adaptation de cette catégorie subordonnée implique que les grandes œuvres d'art servant dans un autre contexte comme de véritables phares artistiques peuvent être utilisées dans une façon plus restreinte comme des porteurs de petites solutions utilisables dans la ligne de développement. On peut donc suggérer que pour Rodolphe, l'hôtel de Prague a constitué un objet d'expérimentation artistique. Les quatre artistes qui ont appartenu aux quatre différentes confessions chrétiennes, parce qu'il y a des grandes différences entre le plus libéral calvinisme des Pays-Bas, chez Fredemann, et le strict calvinisme de Bâle, Suisse, de Heinz, ce sont les représentants d'une Europe chrétienne. Il a décidé de représenter dans un seul hôtel toute l'Europe chrétienne, excluant l'orthodoxie, mais nous ne savons pas si elle grecque était orthodoxe, en tout cas, et qui ont créé une œuvre complexe, d'art, où on peut discerner des influences de deux courants artistiques dans les Pays-Bas et de trois écoles italiennes, Rome, Florence et Venise. Et c'est absolument évident que Rodolphe a inspiré ainsi à une solution européenne et que cette idée a été vraiment fascinante comme une première réalisation, mais qu'elle était aussi grossièrement naïve. Mais les mécanismes envisagés par l'empereur et sa groupe des artistes montrent qu'on ne peut pas unifié par l'ordre du mufti, des références à divers genres et catégories artistiques, parce que l'art est ailleurs. Merci.
Merci, Sergius Michalski, pour nous avoir présenté à travers cet exemple fascinant de ce tableau d'autel la question des différentes confessions religieuses, des artistes qui sont menés à une collaboration artistique, à un même tableau religieux, qui pose des enjeux d'unité stylistique, mais aussi de rivalité artistique dans le contexte de la Prague rudolphine. Alors, pour conclure cette journée, j'ai l'honneur de présenter notre hôte qui n'a pas véritablement besoin d'introduction, Victor Stoichkiță, donc originaire de Bucarest, qui a fait ses études d'histoire de l'art à l'université La Sapienza de Rome, ensuite à l'université de Munich et ensuite à l'université de Paris-La Sorbonne. Depuis 1991, il est professeur ordinaire d'histoire de l'art des temps modernes à l'université de Fribourg. En 2014, il a été titulaire de la chaire du Louvre. En 2015, titulaire de la chaire internationale Franqui auprès de plusieurs universités belges. Et en 2016, titulaire de la chaire Erwin Panofsky auprès du Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Munich. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire de l'art qui ont eu un impact remarquable et je dirais transformateur pour la discipline dans les dernières décennies. La liste est longue, j'en mentionnerai quatre. Celui sur le cadre, l'instauration du tableau Métapeinture à l'aube des temps modernes. Ensuite, la brève histoire de l'ombre. Celui encore sur l'effet de vie et le simulacre. L'effet Pygmalion pour une anthropologie historique du simulacre. Et enfin, celui sur la vision. L'œil mystique, peindre l'extase dans l'Espagne du siècle d'or. Plus récemment, Victor Stoichkiță a été aussi l'auteur d'un roman d'autofiction, Oublié Bucarest, qui a été couronné par l'Académie française. Il est membre de l'Academia Europea, membre associé de l'Académie royale de Belgique et membre étranger de l'Academia dei Lincei. Je lui laisse à présent la parole et lui souhaite la bienvenue.